Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal de Yvan Lutumba.
Ce journal débute par un retour sur les événements survenus cette nuit et ce matin dans la ville de Bukavu. Des hommes armés non identifiés ont investi la ville et des coups de feu ont retenti durant des bonnes heures. En ouverture de cette édition, nous vous parlons du bilan de cette attaque et de la réaction des autorités qui tranquillisent. Aussi ce coup de gueule des enseignants des écoles conventionnées de la communauté Nation du Christ en Afrique à Goma. Ils mettent en cause des gestionnaires de l'EPST qui créent un dédoublement fantaisiste avec comme conséquence la disparition de leur salaire. Augustin Poy, expert technique au cabinet du ministre des Finances, sera notre invité en fin de cette édition. Il nous parle de l'accord qui a été signé hier, mardi 2 novembre, à Glasgow, en Écosse, en marge de la COP 26. Fidèles auditeurs, nous sommes fiers de votre confiance en vous informant sur Radio Okapi. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Six assaillants tués, quatre blessés, 36 capturés et 14 armes de guerre récupérées, deux militaires FRDC et un policier tué. Tel est le bilan provisoire présenté par le gouverneur de province des attaques ayant eu lieu depuis la nuit jusque ce matin dans la ville de Bukavu par un groupe d'hommes non identifiés. Théo Ngwabidje Kassi, qui a présenté ces rebelles capturés à la presse, souligne que la situation dans la ville de Bukavu est sous contrôle. Il appelle ainsi la population à vaquer librement à ses occupations et à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer ces assaillants. On écoute le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamégé.
La ville de Bukavu a connu une attaque cette nuit à partir des 1h du matin par des assaillants qui ont pris comme cible plusieurs commissariats de la police nationale congolaise. Face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité ont procédé à l'anéantissement de ces forces négatives. Et à l'issue de ces affrontements, que vous avez tous constaté tout au long de cette nuit, le crépitement des balles. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes, des FRDC et un de la PNC. Comme je l'ai dit très tôt le matin, la situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provinciale. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans leur retranchement. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation, afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice.
Et le bilan actualisé provenant des principaux hôpitaux fait état d'une personne morte, 6 corps sans vie reçus et une vingtaine de blessés. Les équipes médicales sont toujours en alerte pour faire face à toute situation d'urgence. Cynthia Bachizina Bizana.
Parmi les 2 blessés reçus à l'hôpital de Panzi ce mercredi matin, figurait un petit garçon de 4 ans qui a succombé à ses blessures peu après son admission aux urgences. Il a été touché par une balle à la tête alors qu'il était chez lui au quartier Mulengeza dans la commune de Bagera. Il est donc arrivé à l'hôpital avec une plaie sur la tête avec rétention de la balle au niveau du cerveau, a précisé le médecin directeur. L'état de santé de l'autre personne blessée s'est amélioré. Du côté de l'hôpital provincial général de Bukavu, 5 corps sans vie ont été reçus, alors que 20 blessés ont été admis aux urgences. Cet hôpital est pour le moment celui qui a connu un afflux massif de blessés depuis ce mercredi matin dans toute la ville. Leur état est pour le moment stable, renseigne le service d'urgence. Rien à signaler du côté de l'hôpital général de Bagira ou celui de Tiriri dans la zone de santé de Kadutu. Tous les hôpitaux contactés ne savent pas préciser qui des blessés ou des personnes décédées étaient civils, assaillants ou militaires. Cynthia Bachizi, Bukavu. Radio Okapi.
Et parlant de ce groupe d'hommes qui a attaqué Bukavu, d'après le commandant de la 33e région militaire, il s'agirait des combattants d'un groupe rebelle dénommé CPC-64. Leur intention serait de venir libérer leurs compagnons détenus à la police de Bukavu depuis la semaine dernière. La force de la MONUSCO et la police des Nations Unies sont en alerte dans la ville de Bukavu en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo à la suite de cette incursion. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la mission au cours de la conférence de Nations Unies tenue ce mercredi 3 novembre à Kinshasa. Des journalistes de Goma, Beni et Bounia, étaient également connectés à cette rencontre par visioconférence. Les propos de Mathias Gilman, recueillis par Honoré Missenga Kalala.
parlons un peu de Bukavu, où cette nuit des tirs ont été entendus dans la ville. Selon les premières informations, des hommes armés auraient attaqué des positions des forces de sécurité, y compris l'armurerie située dans les quartiers industriels de la ville. La MONUSCO suit de près la situation. La police des Nations Unies et la force restent en état d'alerte et en contact étroit avec les autorités provinciales. Nous sommes effectivement des partenaires. Les FRDC se sont déployés au sein de la ville. Nous, en coordination donc avec les autorités provinciales et les forces de sécurité nationale, nous avons lancé des patrouilles de longue durée sur les trois principales routes qui mènent vers Bukavu, donc en direction de Walungu, de Nyangenzi et de Kavumu, pour justement venir en soutien aux FRDC.
Et cette réaction du parti politique Action pour un Congo Nouveau, ACN, au sujet de l'utilisation de ces emblèmes par les assaillants de la ville de Bukavu dans la nuit de ce mercredi. Maître Eric Mushayuma Sangara, secrétaire général de ce parti ACN, nie toute implication de son parti politique dans cette affaire. Ses propos sont recueillis par Emmanuel Elamejua Kabili.
Action pour un Congo Nouveau, ACN, parti politique, également reconnu et opérationnel depuis le 2 janvier 2021. Et membre de l'Union sacrée de la nation, à ce titre, l'ACN fait partie des rares organisations politiques qui appuient publiquement et sans réserve toutes les initiatives du chef de l'État visant le rétablissement de la paix à l'est du pays. De ce fait, l'ACN a appris avec beaucoup de regrets à travers les ondes et les réseaux sociaux que des malfrats et des inciviques ont tenté de menacer la quiétude dans la ville de Bukavu. Les adversaires politiques de l'ACN, en mal de positionnement, ont fait circuler dans les réseaux sociaux le drapeau de l'ACN a tenté de relier notre parti politique à ces événements malheureux si haut décrits. L'ACN, n'étant ni de près ni de loin impliqué dans la situation qui prévaut actuellement à Bukavu, l'ACN compatit avec la population de Bukavu et lui demande de rester vigilante et de ne pas céder aux manipulations de mauvaises augures. Fait à Kinshasa, le 3 novembre 2021, Maître Eric Mushayuma Sangara, secrétaire général.
Restons toujours dans la province du Sud Kivu pour parler du site des déplacés internes de Mushimbakie dans la ville de Baraka. C'est vidé de ses occupants depuis le week-end dernier. Un mouvement de retour de ces déplacés de Bibokoboko est signalé sur le couloir humanitaire entre la ville de Baraka et les moyens plateaux de Bibokoboko. Plus de 2000 personnes, dont en majorité des femmes et des enfants répartis en trois convois, ont décidé de quitter le site de Mushimbakie pour retourner dans leur village à 27 km à l'ouest dans les moyens plateaux de Baraka. Fiston Goma.
Ces déplacés internes affirment avoir décidé de partir en raison des conditions de vie difficiles, notamment d'une mauvaise assistance humanitaire, de la xénophobie, la violence psychologique et physique contre les membres de leur communauté. Des camions ont transporté la première vague de 209 personnes, femmes et enfants de Mushimbakie à Bibokoboko le week-end dernier. Deux jours après, quatre autres camions ont transporté en deux convois plus de 1200 personnes déplacées vers les moyens plateaux. Le chef du village de Bibokoboko, David Matare, affirme que ces personnes qui retournent se concentrent d'abord à Bibokoboko centre avant de regagner d'autres villages plus loin. La même source atteste que d'autres personnes déplacées ayant fui les villages Mugono, Rutabura et Mugorore se trouvent encore au site de Lusenda, le deuxième couloir humanitaire dans le secteur de Tanganyika. Pour leur sécurité à Bibokoboko, les retournés disent compter sur les casques bleus pakistanais de la MONUSCO qui ont installé une base opérationnelle à côté des FRDC. Pour rappel, le 13 octobre dernier, une coalition des miliciens Mai Mai avait lancé des offensives sur plusieurs villages des environs de Bibokoboko. Ces Mai Mai s'étaient affrontés aux miliciens Tugwaneo, une situation qui avait entraîné un déplacement massif de personnes vers la ville de Baraka, fouillant les zones de combat. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
L'actualité nous amène à Ituri où environ 1000 véhicules sont bloqués depuis plus d'une semaine à Komanda, 75 km au sud de Bunia dans le territoire d'Irumu. C'est la conséquence de la suspension des convois à cause de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région. Selon le président provincial des transporteurs, les conducteurs qui ne savent pas à quel sein se vouer s'en inquiètent. Ils lancent un appel aux autorités militaires de s'impliquer pour mettre fin à leur calvaire qui est dû également aux travaux de la réhabilitation du tronçon axe Commandant d'Aliad par la MONUSCO. Martial Kizabiamungu.
C'est depuis plus d'une semaine que des véhicules sont bloqués à Komanda Centre. Il est difficile pour eux de s'engager sur la route Komanda Luna, longue d'environ 65 km, sans convoi. Certains transporteurs déplorent la dégradation de leurs marchandises, notamment des vivres. Selon le président provincial des transporteurs, Georges Bosman, la situation sécuritaire caractérisée par des attaques de ZADF sur cet axe ne permet pas aux conducteurs de prendre la route. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation en cours de l'axe Komanda Ndalia entrave également les trafics sur cette route.
Le trafic est coupé et c'est la crise. Bouya n'est pas ravitaillé, qui s'en gagne non plus. Les produits périssables, ça a des conséquences.
La Monisco qui exécute ces travaux appelle le transporteur à la patience. Jean-Toubi Okala, chef de l'information publique de la Monisco à Bouya.
Nous leur demandons d'être patients et de comprendre que c'est pour leur bien, n'est-ce pas, que nous avons entrepris ces travaux.
Au cours de la rencontre avec le chef d'état-major général de FRDC, le général Mbala Moussissé, lundi à Bouya, les transporteurs ont sollicité son implication pour la reprise des convois et la restauration de la sécurité sur cette route d'importance capitale. Ce dernier leur a promis de s'y pencher. Bouya, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
À Goma, les enseignants des trois écoles conventionnées du réseau de la communauté Nation du Christ en Afrique dénoncent le dédoublement de leurs écoles par les responsables de l'EPST. Un dédoublement qui se traduit par le remplacement sur les listes de paie des enseignants jadis payés par le gouvernement par des nouveaux noms. Le dernier cas en date est celui de 6 personnes payées pour le mois d'octobre mais qui ne figurent plus sous les listings de novembre car remplacées par d'autres noms. Reportage de Rosalie Zawadi rendu par Denise Loukesso.
Pour ces enseignants, les responsables de l'EPST créent des écoles qui portent les noms de leurs écoles et les font fonctionner l'après-midi sur d'autres sites au profit de ces nouveaux enseignants qui prennent leur place. Explication de Mapendo Migabo, préfet de l'Institut Mulungu, l'une des écoles victimes de cette mafia.
Ce sont des écoles qui fonctionnent en parallèle. Les unes sont dénommées écoles non conventionnées. Les autres sont dénommées écoles conventionnées protestantes. Voilà que les enseignants qui travaillent dans les doublons sont en train de recevoir l'argent qui devrait revenir là où les écoles ont été implantées, recensées et payées. C'est ainsi que nous qui n'avions pas obéi à leurs préoccupations parce qu'ils ont voulu ravir à la communauté ces écoles, nous nous sommes retrouvés à l'extérieur. Certains enseignants ont été remplacés. Ils sont en train de recevoir l'argent de la 21e Sénéca alors qu'ils sont dans une école non conventionnelle. C'est une cacophonie.
Contacté à ce sujet, le directeur de la province éducationnelle de l'EPST Nord Kivu 1 indique qu'il est au courant de cette situation. David Rukat Mouteb ajoute que le secteur de l'éducation est bien organisé, sans plus. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Et dans la province du Kwilu, le pont Zinda situé sur la route nationale numéro 1 dans la ville de Kikwit est sur le point de s'écrouler. C'est le président de la société civile urbaine qui y alerte. Selon Laurent Boignan, cette situation est consécutive aux pluies diluviennes qui s'abattent ce dernier temps sur cette ville. Il indique que si ce pont cédait, non seulement la ville de Kikwit qui sera coupée de Kinshasa, la capitale, mais aussi les échanges commerciaux vont se couper entre Kinshasa et les villes de Chikapa, Kananga et Mbujimayi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, le décompte des voix récoltées lors des élections municipales a commencé. Le pays a enregistré l'un des taux de participation électorale les plus bas de son histoire récente. Dans les quartiers de la commission électorale indépendante, plusieurs dirigeants des partis politiques et des journalistes attendent le dépouillement des votes. Une percée diplomatique face à son engagement en faveur de la protection de l'environnement, c'est ce que le continent africain tente de réaliser depuis le début de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient à Glasgow. Après leur discours à la tribune de la COP26 qui pour l'essentiel ont tourné autour de l'engagement des pays du continent en matière de lutte contre le réchauffement climatique, des dirigeants du continent ont eu une nouvelle fois des voix au chapitre mardi lors d'un sommet consacré à l'Afrique à Glasgow. Alors qu'elle ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique avec à la clé des conséquences sur le plan économique.
L'invité.
Augustin Poig, expert technique au cabinet du ministre des Finances, est notre invité. Son entretien avec Paul Matendo tourne autour de l'accord qui a été signé hier mardi de novembre à Glasgow, en Écosse, en marge de la COP26 entre le gouvernement de la RDC, représenté par le président de la République, et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale CAFI, représenté par le premier ministre britannique. Suivez.
Maître Augustin Poig, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de présenter le processus des négociations du partenariat RDC-CAFI. Quand est-ce que ce partenariat sera-t-il signé, selon vous?
C'est un nouveau partenariat de 10 ans entre la RDC et CAFI. CAFI, c'est une plateforme des pays donateurs qui sont intéressés à accompagner la RDC à assurer la préservation des forêts tout en se développant. Voilà. Et donc, cet accord est censé être signé à Glasgow entre le Premier ministre britannique qui représente la Grande-Bretagne et en même temps tous les pays donateurs au sein de CAFI et le président de la République qui va représenter la RDC.
Quels sont les piliers principaux de cet accord?
Alors, sur la période de 10 ans, la RDC a pris un certain nombre d'engagements qui concernent un certain nombre de secteurs clés qui ont été identifiés comme moteurs de la déforestation. Et la RDC a pris des engagements, des actions concrètes, des priorités qu'elle s'impose, mais en contrepartie de l'atteinte de ses objectifs, de ses jalons, elle reçoit un financement de l'ordre de 500 millions pour la période de 5 ans qui viennent. Donc c'est en raison de 100 millions de dollars par an, alors que dans le premier partenariat qui a duré de 2016 à 2020, c'était 40 millions par an pour une enveloppe globale de 200 millions pour la période de 5 ans. Et donc, avec cette enveloppe, la RDC va avancer vers la réalisation de ses engagements qui vont dans le sens de maintenir le couvert forestier, de gérer les impacts que les différents secteurs peuvent avoir sur les forêts tout en apportant une réponse consolidée au moteur de la déforestation et de la dégradation des forêts.
Dans le domaine agricole, par exemple, quelles sont les dispositions prises pour éviter la dégradation des forêts?
Bon, on a mis en place un certain nombre d'engagements, notamment la RDC s'oblige à ne pas affecter, à orienter l'agriculture dans les zones de savane ou dans les forêts dégradées. L'agriculture industrielle, bien sûr, et d'encadrer en même temps l'agriculture paysanne et l'agriculture intermédiaire pour qu'elle n'ait pas d'effet d'incidence négative sur les forêts des grandes valeurs, sur les tourbières, sur la biodiversité. Voilà, ça sont des engagements phares qui ont été pris, au-delà du fait que dans ce domaine agricole, une politique agricole durable est en cours d'élaboration qui pourrait éventuellement entraîner une nouvelle loi et la révision du cadre programmatique dans le secteur agricole.
Vous parlez d'un montant de 500 millions de dollars américains. Comment faire pour que les populations rurales bénéficient aussi de ces fonds?
Oui, je pense que pour atteindre les populations rurales, il y a un certain nombre d'actions qu'il faut mener pour améliorer globalement la gouvernance au niveau national, au niveau provincial, au niveau local et au niveau communautaire. Je pense que toutes les priorités qui sont ciblées dans la lettre d'intention actuelle permettent de travailler sur ces conditions habilitantes. Et dès que cela est fait, je pense que on pourrait très facilement arriver à aborder la question de la lutte contre la pauvreté dans les milieux ruraux et à relever un tant soit peu le niveau de vie et financer le développement local.
Maître Augustin Pouy, merci.
Je vous remercie.
Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette édition de journal préparée par Élisée Chikota, Alain Hirong, Pelekipe Lamondo et Polydor Basunga assurer la prise des sons et la mise en onde. Billy Van Lotombe était devant ce micro pour la présentation. Nous vous disons sincèrement merci pour votre sympathique attention.